Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast qui accompagne la sortie DVD de la saison 4 de The Crown, prévue le 15 novembre 2021, série incontournable créée par Peter Morgan et produite par Sony Pictures Entertainment. Dans cette émission, nous reviendrons en deux épisodes sur les figures emblématiques de cette saison 4. Nous verrons comment la série oscille entre romance et réalité, et également quels événements historiques ont été écartés de son scénario, entre autres. Sont avec moi, autour de la table, quatre invités de marque. Nicolas Fontaine, venu tout droit de Bruxelles, qui est spécialiste des monarchies royales et rédacteur en chef d'Histoire royale. À distance, Kevin Guillot, fondateur et rédacteur du site monarchiebritannique.com. Également Caroline Vier, journaliste spécialiste série cinéma au journal 20 minutes. Et enfin Marion Lecoq, journaliste chez Seriously. On écoute. Alors justement, c'est une série qui fonctionne parce qu'elle est extrêmement bien produite. Est-ce que le casting y joue aussi? Je pense que oui, on a quand même un casting de dingue les deux premières saisons et les saisons 3 et 4 aussi.
Déjà, il y a un travail incroyable au niveau du casting, au niveau du physique, je trouve, comment c'est travaillé, même après maquillage dans la saison 4. Olivia Colman, elle est géniale. Elle a été récompensée, d'un Emmy Awards là récemment. Et évidemment, Emma Corrin et Gillian Anderson, qui sont les deux nouveaux ajouts pour cette saison 4, qui ont été toutes les deux récompensées. Emma Corrin, elle a eu un Golden Globe, si je ne dis pas de bêtises. Et Gillian Anderson a eu un Emmy Awards là récemment. C'est assez impressionnant de voir à quel point elles ont travaillé et repris les mimiques et les voix et les intonations. En fait, de Thatcher et de Diana. Pour m'amuser, j'ai revu des images d'archives et c'est vraiment incroyable le travail d'acteur qui est fait pour justement que ça paraisse le plus vrai possible.
Et c'est vrai que le jeu de regard de Diana, quand on regarde les interviews, les archives, c'est extrêmement bien réinterprété dans la série. Et pour l'anecdote, l'actrice qui joue donc Diana dans la saison 4 n'était pas prévue en fait. Elle a donné la réplique dans la saison 3 à Camilla et elle a fait mouche et donc ils l'ont prise au casting pour la saison 4. Alors déjà, on a un petit peu ce casting qui change complètement de la saison 2 à la saison 3. Est-ce que c'est quelque chose qui peut perdre un petit peu le téléspectateur?
Pas du tout, c'est une excellente idée, ils vieillissent. Et c'est beaucoup mieux que de les grimer n'importe comment. Enfin, on y croit tout à fait. Pour moi, ça ne m'a posé aucun problème. Surtout que à chaque fois, la distribution est impeccable. Enfin, il n'y a absolument aucun problème dans la transition.
Je pense que c'est là aussi, on peut dire que ça sera compliqué de continuer, justement parce qu'on va se rapprocher des personnages. Et donc, la comparaison sera encore de plus en plus difficile, quoi. Parce qu'on voudrait que les personnages ressemblent le plus possible à des gens qu'on voit actuellement, qui vivent et qui ont le même âge.
Pas forcément, parce qu'on a vu, par exemple, des films comme Le Promeneur du Champ de Mars, où Michel Bouquet ressemblait pas du tout à Mitterrand, et ça passe. En fait, quand c'est bien fait, on ne demande pas à ce que ce soit un mimétisme absolu. Oui. On demande à ce qu'il y ait le même type de mimique, le même type de comportement, de langage corporel. Après, je pense que les problèmes, ce sera plutôt des problèmes légaux pour la suite.
Oui. Et puis on y croit facilement. Là, j'ai l'image qui me revient en tête de Churchill, qui était absolument magnifique. Le personnage de Churchill était extrêmement bien interprété. Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse vraiment sur... parce que c'est un gros débat, cette limite entre la fiction et la réalité. On va faire un petit point entre ce qui s'est réellement passé sur la saison 4, historiquement, et ce qui a été un petit peu romancé. On va commencer avec le fameux bizutage de Balmoral dans l'épisode 2. Est-ce qu'il y a un véritable test? Est-ce qu'à chaque fois, le Premier ministre, la Première ministre, doit vraiment faire mouche aussi bien en chassant qu'en participant au jeu le soir en famille?
Ce n'est pas un test, en fait. Elisabeth II a eu pour habitude, dès qu'elle est devenue reine, d'inviter ses premiers ministres en vacances quelques jours quand elle était à Balmoral. Ça lui permet en fait d'être plus proche de son Premier ministre, de pouvoir parler un peu plus librement de certains sujets, en sachant qu'ils passent la journée ensemble. Et ça lui permet aussi d'être plus décontracté, d'enlever ce protocole lourd qui lui impose d'être d'une certaine manière, de dire certaines choses à Buckingham qu'elle n'a pas à Balmoral. On considère dans la série que c'est un bizutage parce que Margaret Thatcher l'a très mal vécu. On le sait qu'elle l'a considéré comme un véritable purgatoire. C'était vraiment quelque chose de très difficile pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement opposée à Elisabeth II. Du coup, ce qu'il a voulu faire passer comme message, Peter Morgan, je pense que c'est de montrer dès le début les différences entre les deux femmes. Balmoral était un bon lieu. En plus, ça lui a permis aussi de montrer que Margaret Thatcher n'était pas du tout d'accord avec la manière dont fonctionnait la famille royale.
D'accord. Ça, c'est véridique. Donc, il y a vraiment une vraie opposition entre...
Ouais. Ah oui, les portes claquaient souvent à Buckingham lors de leurs réunions hebdomadaires. Après, Elisabeth II, c'est pas quelqu'un qui montre beaucoup ses sentiments. Elle n'a jamais montré qu'elle était contre Margaret Thatcher. Pour preuve, elles étaient très respectueuses l'une pour l'autre. Elles ne s'aimaient pas politiquement. Malgré tout, elles s'appréciaient. Et quand Margaret Thatcher est décédée, Elisabeth II est venue aux funérailles.
Alors, autre point, vrai ou faux, la fameuse danse de Diana à l'opéra, est-ce que ça s'est vraiment passé ?
Oui, ça s'est passé, mais c'est évidemment la force des scénaristes, c'est que la plupart des événements publics que l'on voit dans la série se sont réellement passés, donc ils partent d'un événement public existant, et puis à leur retour, ils brodent toute l'histoire. Donc l'événement, évidemment, s'est passé. On sait que Charles n'a pas été très réceptif à cette danse. Maintenant, je pense pas qu'il y ait des gens qui étaient là quand il a fait des critiques, et exactement qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet. Elle voulait peut-être partager sa passion. On sait qu'elle a suivi des cours de danse très tôt, dès qu'elle était à Kensington, c'était son moyen d'expression. Bon, apparemment, ça n'a pas fait mouche. Mais bon, à l'époque, déjà, ça n'allait plus entre eux.
Bah, elle devait bien s'empoisonner la vie dans ces châteaux immenses où elle n'avait rien à faire. Hein. Elle devait quand même trouver le temps long. Hein.
Alors, dans l'épisode 5, on a l'épisode de l'intrusion.
Alors, ouais, je suis allée voir, parce qu'après avoir vu cet épisode, je dois avouer que j'étais très, très curieuse de savoir si c'était possible. Alors, c'est à la fois vrai et pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a un agité du bocal, effectivement, qui est arrivé, vous me corrigez, messieurs, si c'est pas ça, à s'introduire deux fois, quand même, hein, faut le faire, à Buckingham Palace. Une première fois, il est allé picoler un petit coup. Et la deuxième fois, il est arrivé jusqu'à chez la reine. Et puis, bah, elle n'a pas parlé avec lui. C'était pas du tout un activiste politique. C'était un siphonné, pas méchant. Donc, il a été un petit peu arrêté, mis à se reposer dans un endroit un peu tranquille, avec des murs un peu mous. En fait, il raconte qu'elle ne lui a pas parlé du tout. Elle est partie avec ses petits pieds. Ça m'a fait rire parce qu'il disait elle est partie avec ses petits pieds nus, puis un garde l'a maintenue tranquille en attendant que la police l'emporte se calmer un peu plus loin. Mais ce n'était pas du tout un activiste politique, en tout cas. Mais c'est arrivé deux fois, ce qui prouve quand même que la sécurité, elle devait être top à Buckingham.
Et en plus de ça, lui-même, puisqu'il est toujours vivant, donne des interviews fréquemment. Et ses propres versions sont différentes d'une fois à l'autre parce que c'est vrai, il avait bien bu, il est schizophrène. Donc tout s'est aussi passé très, très vite.
Mais donc, ce n'est pas du tout le personnage qu'on dépeint dans l'épisode.
Non, disons que ça sert à ce moment-là parce qu'on veut faire croire que lui, il en veut à Margaret Thatcher, que sa condition est telle à cause d'elle. En quelque sorte, c'est un peu vrai parce que dans la vraie vie aussi, il n'avait pas de travail, sa situation était vraiment précaire et aussi sa situation familiale. Mais ici, on a un petit peu embelli et ajouté. Ça permet aussi dans cet épisode de voir que la reine garde son sang-froid, mais qu'elle est aussi ouverte parce qu'elle prend le temps de s'asseoir et de l'écouter.
Ça montre aussi que la monarchie n'est pas si intouchable que ça et que, en fait, elle est très fragile.
Moi, je voulais dire que ça, je trouve que ça l'humanise beaucoup, en
Bien
fait.
Sûr.
On a ce côté humain que, alors que quand on la voit parfois interagir, notamment avec ses enfants, on dirait presque un robot, en fait.
Oui, c'est une très jolie scène, je trouve. Hein. C'est une scène qui montre la reine Elisabeth, même dans la vie, comme on ne la voit jamais. Et je trouve que c'est un des personnages les plus importants et les plus intéressants de la série, la reine Elisabeth, que c'est un des personnages les plus complexes, les plus travaillés. Mmh. Peut-être parce qu'on la voit pendant toute la série.
On la voit grandir, on la voit évoluer, on la voit s'humaniser un petit peu.
Ah bah, je dois avouer que moi, j'étais très triste quand, dans la vie, le prince Philippe est mort, alors que si je n'avais pas vu The Crown, je pense que je n'en aurais pas eu grand-chose à faire. Alors que ça m'a émue parce que je voyais sa vie dans The Crown.
Un autre, on a encore deux, trois points. La fameuse avalanche en Suisse. Alors, dans la série, le scénario est tel que Prince Charles, en fait, est introuvable. Il y a tout un protocole qui se met en place. Dans la vraie vie, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça.
Tout à fait. En fait, je pense qu'ici, c'était un prétexte pour parler notamment de l'opération Menai Bridge. C'est le nom de code que l'on donne pour annoncer la mort du prince de Galles. Et de là découlent toutes sortes de protocoles au niveau de la police, de la sécurité, de l'armée, comment communiquer avec la presse, etc. Mais effectivement, lors de cette avalanche, à aucun moment on a pensé que le prince Charles était mort, puisque de toute façon, quand les secours sont arrivés sur place, lui était bien vivant, lui-même était témoin de la scène, et l'information n'est jamais remontée jusqu'à Londres comme quoi il aurait pu disparaître.
Mais il y a eu des victimes dans la vraie vie.
Oui, un de ses amis qui était écuyer de la reine est vraiment mort, donc c'est un épisode qui l'a beaucoup traumatisé.
Dernier point, cette fameuse guerre entre Charles et Diana, parce que c'est un thème qu'on retrouve dans quasiment tous les épisodes de la saison 4. Est-ce qu'ils se haïssaient autant ? Parce qu'on a l'impression que Diana quand même essaye un petit peu de faire revivre cette relation et s'attache à quelqu'un qui ne la regarde pas, qui ne l'apprécie pas, qui ne la considère pas du tout.
Bah, clairement, la série prend le parti de Diana sans s'occuper beaucoup du parti de Charles. Ce qui me gêne un peu, moi, à titre personnel, je trouve
moi
ça trop unilatéral. Voilà. Mais ça a dû être plus complexe que ça maintenant. J'étais pas sous leur lit.
Oui, mais ils avaient chacun une part de responsabilité dans ce mariage qui avait été une catastrophe, hein, il faut le dire. Déjà, parce que Charles était amoureux d'une autre femme, donc c'est déjà compliqué. Et Diana qui voulait absolument voir son mariage comme une sorte d'amour alors que ça ne l'était pas. Donc elle a aussi commencé très tôt à accumuler les amants et à les ramener à Kensington parce qu'elle savait très bien que son mari l'a trompée avec Camilla. Donc ils ont chacun leur part de responsabilité dans la chute de ce mariage. Donc il faut pas non plus penser que Diana était la sainte et Charles le diable. Donc
oui, c'est passé un petit peu, oui, ça a simplifié un petit peu la relation.
Comme toutes les histoires de couple, hein, parce que c'est Diane et Charles.
C'est vrai que là, la série prend clairement partie pour Diana. Est-ce que c'est parce qu'elle a eu le destin tragique qu'on connaît?
Ah, puis il y a des trucs rigolos. Quand il lui dit à un moment, ce serait toi, je divorcerai pas, il va t'arriver des histoires. Si tu divorces, il lui dit ça à un moment dans la série, si mes souvenirs sont bons. Il y a un petit côté complotiste qui plaît bien aux Américains, on va pas se mentir.
Diana a sa popularité que Charles n'a pas, alors il faut aussi aller dans le sens des gens qui regardent la série, il faut le dire aussi.
Voilà. Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des points ou des événements qui ont été oubliés et qui auraient pu avoir leur place dans la saison 4?
Ce que je pense, moi, c'est la tentative de kidnapping de la princesse Anne en 1974, qui a été complètement oubliée de la série. Et pourtant, c'est un événement important aussi, parce que il est rare que l'enfant d'un monarque se fasse kidnapper comme ça. C'était un jeune de 26 ans qui a fini en hôpital psychiatrique. Hein, et donc, il a tiré 3 balles sur le chauffeur, sur un policier aussi. Et finalement, c'est un boxeur qui passait par là qui a réussi à contenir l'assaillant. Alors, et donc, le boxeur a même été décoré par la reine qui l'a remercié personnellement d'avoir sauvé sa fille. Donc c'est une histoire
aurait pu être un
épisode à lui tout seul. Et voilà,
En entendant ça, on se dit mais pourquoi ils l'ont pas fait?
Et c'est là
qu'on voit qu'ils ont préféré axer sur Charles et Diana que la princesse Anne. Finalement, on la voit très peu. Parce que je pense que auprès des gens, elle est beaucoup moins populaire.
Elle a aussi un mariage chaotique.
Clairement.
Oui, ils ont visiblement beaucoup de problèmes de couple dans cette famille. C'est pas une
réussite. Non.
Ils ont eu tous des mariages chaotiques, à part le dernier fils de la reine, le prince Édouard, qui vit encore avec sa femme et qui sont très amoureux, et ils le montrent, ils ont 2 enfants. Mais alors, qui aujourd'hui est capable de nous dire que la reine a 4 enfants?
Pas moi.
Ah voilà. On pense tout de suite à Charles, même Anne est oubliée. On pense pas forcément à Andrew, Édouard.
Andrew, on en a entendu parler récemment, pas forcément de façon très positive. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi beaucoup commis tout ce qui était politique, en fait.
C'est-à-dire
les grèves, le fait que Thatcher a quand même eu sur la vie des Britanniques une influence catastrophique, on va pas se mentir. Tout ça, c'est quand même passé sous la trappe au profit, c'est le côté romanesque encore une fois de la série, au profit de leurs histoires d'amour et de leurs histoires d'alcôve et des discussions qu'il peut y avoir entre ces deux dames.
Mais justement, c'est bien que tu parles de ça, parce qu'il y a un attentat qui a visé Thatcher en 84.
Absolument.
Et puis il y a cette grève des mineurs qui lui a valu, il me semble, le surnom de dame de fer.
Elle n'a cédé en rien et ça a été une catastrophe sociale dont les Britanniques ne se remettent pas encore. Hein. Donc, on peut penser que dans la vie des Britanniques, ça a été plus important que de savoir si Diana et Charles se chipouillaient un peu en privé. Donc, c'est vraiment un choix aussi de la série d'avoir pris plutôt la part romanesque et amoureuse, ce qui est un choix tout à fait conscient, à mon avis, plutôt que d'avoir essayé de tirer du côté historique.
On gomme la figure de dame de fer de Margaret Thatcher.
Exactement.
On laisse entendre qu'elle est peut-être un tout petit peu de droite, mais...
Oui, on sent qu'avec cette saison 4, ils ont pris un pas plus vers l'histoire intime des personnages plutôt que le côté politique qui était bien plus présent dans les 2 premières saisons. Déjà, à partir de la 3, je trouve que ça se gomme. Et dans cette saison 4, c'est très flagrant et je pense qu'avec la suite, ça va continuer dans ce sens.
Oui, parce que ça se rapproche d'événements tout bêtement et que là, les gens pourraient s'offusquer du point de vue politique pris ou pas par la série.
Et puis, on ne parle pas du tout, pour le coup, on n'a aucun spectre international. C'est-à-dire que c'est la Dame de Fer, on est en pleine guerre froide, faut pas l'oublier, et on ne voit jamais en fait les grandes figures de l'URSS ou bien des États-Unis. Voilà, on n'en parle jamais.
Ni même de la France, parce qu'elle n'est pas particulièrement populaire.
Et c'est là aussi où on voit que c'est une fiction. Ça devient une série romantique plus qu'un documentaire en fait.
Voilà, ce qui est pas mal, c'est que ça peut pousser peut-être des gens à aller voir un peu, à se renseigner un peu plus.
Ouais.
Voilà, et puis il existe déjà des biopics et pléthore d'articles et de livres sur Margaret Thatcher ici. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir plus sa relation justement avec la famille royale.
C'est un choix artistique.
Ouais. Oui. C'est un choix artistique exactement. Et alors on a donc la 5e saison donc est bien prévue pour 2022. Le tournage est en cours. Et alors, quelle période on va aborder dans cette saison 5? On se rapproche de plus en plus de la période contemporaine, il me semble.
Oui, ça devrait commencer en 1991. Enfin, ça devrait couvrir les années 90. Il y a des premières photos de tournage qui sont sorties et ça montrait notamment un voyage entre Charles et Diana en Italie. Donc, ça se passait en 1991. Donc, ça devrait commencer à peu près à cette période-là.
Et justement, à quoi vous pensez? Je pense qu'on va quand même parler des
divorces.
La mort de Diana.
La séparation 92.
Parce que dans la
le divorce
dans la
en 96.
Vie, voilà, c'est ça. Dans la vraie vie, il y a quand même.
La mort de Diana en 97.
Voilà, beaucoup de divorces au sein de la famille royale.
Mais moi, j'ai hâte de voir comment ils vont démontrer la mort de Diana parce que c'était un gros problème politique. Elisabeth II a été très critiquée à ce moment-là. J'espère qu'ils vont pas non plus gommer l'histoire de l'incendie du château de Windsor, des choses comme ça qui sont aussi très importantes dans l'histoire de Britannique. Je pense qu'il y aura aussi des choses à dire pour la prochaine saison.
Et on a un nouveau casting du coup parce qu'on passe encore une autre étape. Est-ce que vous avez une idée un petit peu du casting déjà?
Elisabeth II va être jouée par Imelda Staunton, que la plupart des gens ont vu dans le rôle de Dolores Umbridge dans Harry Potter, par exemple. Après, Diana sera jouée par Elisabeth Debicki.
Ouais.
Le prince Philippe, c'est Jonathan Pryce.
Quelle bonne idée.
Oui. Ensuite, le prince Charles, c'est Dominic West. Ouais.
On a quand même du beau monde.
Oui. Il récupère la fine fleur des comédiennes et comédiens anglais. Hein.
Imelda Staunton.
Toujours avec des accents merveilleux.
Elle va être merveilleuse.
Oui, je la vois très bien dans ce rôle.
Oh, bah, elle doit se régaler. C'est un bonheur de jouer ça.
Bah, il y a une vraie, pour
ça
le coup, il y a un
héritage.
Il y a une attente, il y a un héritage. Les deux dernières actrices qui ont joué la reine ont été récompensées au Emmy Award en tant que meilleure actrice. Il y a une certaine pression quand même qui pèse sur les épaules.
Oui, puis ça leur a amené après des rôles au cinéma qui étaient assez merveilleux quand même. Donc c'est vraiment une très bonne chose pour une carrière.
Est-ce que les enfants seront mis en avant
On n'a pas beaucoup d'infos en fait encore sur. Ils sont très secrets. En plus, elle sortira qu'en novembre 2022, donc on a le temps. Peter Morgan, il n'a pas envie de trop empiéter sur l'actuel.
Il a cette fameuse règle des 20 ans.
Oui.
La règle comme quoi il ne s'attaque pas à des événements qui ont moins de 20 ans. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter aux années 2000.
Alors on pourrait aller jusqu'à la rencontre de William et Kate alors. Ce serait une fin à la hauteur du romantisme de la série, on va dire.
Les rumeurs veulent que la saison 6 s'attaque au début des années 2000.
C'est surtout, ils n'en savent rien eux-mêmes. Et
oui, c'est possible.
Rien n'est fixé, mais ils considèrent qu'en deçà de 20 ans, il n'a pas assez de recul sur les événements et qu'ils n'ont pas forcément terminé d'avoir des conséquences.
Toute cette histoire entre Diana et le prince Charles, évidemment, ça nous fait penser aussi un petit peu à Meghan et Harry. Et d'ailleurs, Meghan et Harry qui, eux, se sont exprimés sur la série. On a une interview de Harry qui dit bien, elle donne une vague idée des pressions que subit un membre de la famille royale et de ce que c'est de faire passer le devoir avant toute chose, y compris la famille, et des conséquences qui en découlent. C'est quand même très fort comme déclaration, ça a mis le feu aux poudres.
Puis c'est encore été un moyen pour lui de se victimiser, il faut le dire aussi.
Vous n'êtes pas un grand fan du prince Harry, visiblement.
Oui, on a du mal quand même à le plaindre à 200%. Enfin, j'ai un moment, voilà.
On l'a dit, alors la série est disponible en DVD et justement c'est l'occasion aussi d'avoir des contenus un petit peu exclusifs.
Oui, beaucoup de gens sont encore attachés au support physique, à la possibilité de posséder, de prêter, de regarder. C'est pas du tout le même plaisir. En plus, il y a des suppléments. C'est une très bonne chose, le support physique.
Mais c'est vrai que pour The Crown, c'est quelque chose de nouveau parce que les séries qui sont sur Netflix et qui sont produites exclusivement pour Netflix sortent quasi rarement en DVD. Là, c'est juste que la série crée un tel engouement et touche un public tellement large que ça touche des personnes qui veulent avoir justement ce support physique et peut-être aussi des bonus.
Oui.
Pour la sortie en DVD de la saison 4, c'est l'occasion notamment d'en apprendre un peu plus sur les costumes, qui sont quand même une partie très importante de la série, parce qu'on peut voir à quel point c'est un travail méticuleux pour que ce soit au plus proche de la réalité. Et puis ensuite, il y a aussi les commentaires des acteurs qui explique comment ils se sont appropriés les rôles.
On arrive à la fin de ce podcast. J'aimerais quand même qu'on fasse un petit tour de table. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous retenez de cette saison 4, Caroline?
Surtout les tête-à-tête entre la reine et Margaret Thatcher, c'est des numéros d'actrices absolument merveilleux. Voilà, c'est haletant, on a vraiment envie, ce qu'on demande à une série, on a envie de voir l'épisode suivant dès qu'on en a terminé un, et on a un petit pincement au cœur quand ça s'arrête, et on se dit vivement la suite, donc franchement c'est très réussi.
Et justement, toi, tu nous disais que, pour être honnête, l'histoire de la famille royale t'intéressait pas forcément.
Ah, rien à faire. Ouais. Alors là, d'une force, mais c'est même sidérant. Et pour moi, une belle œuvre d'art, c'est quelque chose qui arrive à vous passionner pour quelque chose qui, à l'origine, ne vous intéresse pas. Et c'est tout à fait, The Crown est tout à fait un exemple de ça. Franchement, je l'ai découvert assez tard, pour ne rien vous cacher, pendant le confinement, et on l'a regardé en famille. Donc c'est tout à fait visible par toutes les tranches d'âge possibles. Et on l'a bingé parce qu'on se laisse prendre, quoi. On s'attache vraiment au personnage. C'est, comme je le disais déjà, extrêmement bien fait.
C'est un pari réussi. Kevin, toi, j'imagine que c'est plutôt le côté historique peut-être qui t'a marqué.
Oui, bah moi justement, j'ai beaucoup aimé le fait que ça retrace vraiment l'histoire du règne d'Elisabeth II, et malgré qu'il y ait quelques oublis, franchement, franchement, c'est vraiment très fidèle quand même à la réalité. C'est vraiment le personnage qui est vraiment le mieux interprété pour moi. Et bah, tous les moyens qu'ils ont mis dans la série, on le retrouve. Et tous les costumes, tous les décors qu'il peut y avoir. Et c'est extrêmement bien filmé. Et comme vous l'avez dit, on a envie de voir le prochain épisode à chaque fois, même si moi je la connais, j'ai envie de savoir ce qui se passe après. Voilà. C'est...
Et Marion, j'ai l'impression que c'est plutôt Margaret Thatcher là, qui reste dans les esprits.
Ah bah, c'est à cause de Gillian Anderson, ça c'est sûr. Cette actrice, elle est juste formidable. Mais non, Diana en reste parce que Emma Corrin était quand même formidable dans son rôle. Ça peut être une histoire qui s'est vraiment passée. Mm-hmm. On se laisse prendre au jeu et on veut savoir la suite.
Je partage exactement la même chose et je vais rajouter aussi un point pour Margaret Thatcher. C'est aussi ce que j'ai vraiment aimé dans cette saison. Moi, évidemment, c'est un univers qui me parle et c'est un peu mon dada, donc j'aime ça. Mais en même temps, je regarde, je pense, comme n'importe quel autre téléspectateur, cette série, parce que justement, je fais la part des choses entre la réalité et le côté fiction. Mais je le regarde avec un regard comme un téléspectateur lambda, on va dire, et j'apprécie ça comme ça.
Bon, mais c'est un sans faute pour la série. Merci à tous d'avoir été avec nous. On a appris beaucoup de choses, j'espère que ça vous a plu. Allez voir la série et achetez le DVD, disponible dès le 15 novembre, en Blu-ray également, si vous voulez en savoir plus sur les coulisses de la série, les costumes et encore bien d'autres contenus exclusifs. Merci à tous les quatre, et moi je vous dis à très bientôt.
Merci, au revoir.
Merci.
C'est dans la boîte.